Auditeurs, auditrices du studio Kalangu, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Nous sommes aujourd'hui à la Tapoa, à 150 km de Niamey, pour parler de l'importance des réserves naturelles protégées du Niger. Défis et perspectives. De combien de réserves naturelles le Niger dispose-t-il? Quelles sont leurs caractéristiques? Quels sont les genres d'espèces animales protégées qu'on trouve dans ces réserves? Est-ce qu'il existe des animaux menacés d'extinction? Lesquels et pourquoi? Comment se fait la gestion de ces réserves? Quelles sont les principales difficultés liées à la gestion de ces parcs et réserves? Quelles sont les solutions en perspective pour une meilleure préservation de la faune de ces réserves? Pour répondre à ces questions, nous avons avec nous le directeur de la faune, de la chasse, et des parcs et réserves Samaïla Sehaïlou. Avec nous également Ali Abdoulaye Gaziba, qui est le chef division parcs et réserves. Et également avec nous le préfet du département de Falmay, Hamani Kondi. Merci d'avoir bien voulu participer à cette émission. Au micro, Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum d'aujourd'hui. Comme vous devez le savoir, le Niger est un pays qui regorge d'énormes potentialités en termes de faune sauvage riche et variée. Ainsi, il existe plusieurs réserves naturelles. Il s'agit entre autres du parc national W du Niger dans la région de Tillabéri, de la réserve naturelle de l'Aïre et du Ténéré dans la région d'Agadez, réserve totale de faune de Gadebeji, réserve naturelle nationale de Termite et de Tintouma, qui s'étend entre les régions d'Agadez, Zender et Difa. Et nous allons sans plus tarder commencer avec vous, monsieur le directeur de la faune. Au total, le Niger compte combien de réserves naturelles?
Les réseaux d'aires protégées du Niger comptent 9 aires protégées qui sont réparties dans deux biomes. Le biome sahélo-soudanien qui renferme le parc W et la réserve de Tamou, la réserve de Kandaji et la réserve de Dosso de la région de Dosso. Le biome sahélo-saharien qui regorge la réserve de Termitontouma, la réserve de Gadebeji, la réserve de l'Aïre Ténéré et deux sanctuaires de hippopotames dans la région de Tillabéri, et le sanctuaire d'Adax dans la région d'Agadez. Ce réseau couvre environ 14,9 millions d'hectares et ce réseau quand même regorge, comme tu l'as dit, d'énormes potentialités, comme je l'ai dit tantôt, la grande faune, les éléphants, les bifs, les hippotragues, les carnivores, et le biome sahélo-saharien, les espèces emblématiques comme les adax, les guépards du Sahara, les chats sauvages et des espèces d'oiseaux migrateurs et apôtres.
Est-ce qu'on peut savoir la nature de ces différentes réserves que vous venez de citer, peut-être avec le directeur, le chef de division parc et réserves? Quelle est la nature de ces réserves dont disposent ces 9 réserves dont dispose le Niger?
Bon, merci pour nous avoir donné l'occasion de nous...
Donc, colonel Abdoulaye Gaziba.
Donc, comme il l'a si bien dit, dans la zone soudano-sahélo, nous avons le parc du W, qui est en réalité aujourd'hui la réserve la plus riche de notre pays. Bien sûr, en termes de superficie, elle n'est pas aussi grande que les autres. Ça fait 220 000 hectares, si ma mémoire est bonne.
Pour la partie nigérienne.
Pour la partie nigérienne. Sinon, le complexe en lui-même fait 1 million et quelques. Donc, la conservation au niveau du parc W Niger, je crois, sans me tromper, doit être la meilleure dans la sous-région. Aujourd'hui, les difficultés auxquelles sont confrontées nos zones protégées, c'est des difficultés de ressources.
Nous allons en venir aux difficultés. D'accord. Mais là, nous voulons avoir la nature de ces différentes réserves. On sait que pour le parc national du W, c'est une réserve nationale naturelle. Exact. Et qui est classée au patrimoine mondial voilà, par l'UNESCO. Donc, est-ce qu'on peut avoir la même situation pour les autres réserves?
Ça dépend de, comment dirais-je, de là où on se situe. Au niveau du parc W, il remplit pratiquement tous les critères. Même c'est le seul parc dans lequel aujourd'hui nous avons le tourisme de vision. Sinon, accidentellement, puisque la zone des girafes n'est pas encore une réserve à ma connaissance classée en tant que telle. Donc ce sont les deux endroits où le tourisme de vision est assuré. Pour ce qui concerne les autres aires protégées, c'est soit les espèces ou comment dirais-je, des zones qui sont conservées. Quand vous prenez, par exemple, pour la sanctuaire de Aïr Ténéré, là-bas, ce sont les adax qui sont conservés. Vous voyez? Donc, au niveau des termites Tuntuma aussi, c'est vrai, il y a des adax, n'est-ce pas? Et certaines espèces comme le mouflon, mais aussi la nature du paysage qui est à sauvegarder. Donc, quand vous quittez d'une zone à une autre, vraiment, il y a des choses qui font que l'État a décidé de son classement.
Oui. Soit c'est pour préserver une espèce animale bien loin, soit le paysage.
Le paysage, exact.
Bien. Monsieur le directeur, peut-être que vous pouvez nous compléter par rapport aux caractéristiques des différentes réserves, superficie, subdivision, végétation.
Oui, en fait, comme il l'a bien précisé, toutes nos réserves dont on a dit, c'est des réserves naturelles nationales et qui sont créées pour la conservation de la biodiversité et dont les statuts diffèrent d'une réserve à une autre. Nous avons dit que le parc, comme il l'a dit, c'est la principale aire protégée qui a divers statuts. Non seulement site du patrimoine mondial, site Ramsar, réserve de biosphère, et intègre comme dans l'ensemble du complexe comme site du patrimoine intégral, le complexe WAP. La réserve de Kandaji vient d'être créée, c'est une réserve nationale naturelle qui, justement, au vu des problématiques majeures que subissent cette espèce emblématique, qui est l'hippopotame, les autorités nigériennes ont pensé de créer cette réserve. Non seulement pour développer le tourisme de vision, parce qu'en dehors des hippopotames, vous avez des sites magnifiques qui regorgent vraiment des potentialités, comme les ressources aviaires, comme les hippopotames, les lamantins, comme la loutre à joues blanches. Et du coup, nous voulons intégrer l'homme à travers des aménagements possible et développer l'écotourisme. Quand vous prenez la réserve des termites Tuntuma, qui est aussi une réserve de biosphère, et ça, c'est une réserve assez vaste, 9 millions d'hectares, dont depuis un certain temps, on est en train de mener aussi des activités quand même de suivi écologique et de surveillance. La réserve de Gadebeji, elle est aussi naturelle et nationale, on a encore quelques espèces de gazelles et aussi les singes. Et nous voulons à un certain moment aussi, et en presque, nous sommes en train de vouloir transloquer un groupe de girafes et d'autres espèces comme les gazelles d'Ama.
Qui peut transférer d'une réserve à là-bas.
De la région de Kouré qui abrite les girafes et on voulait transporter au niveau, transloquer, au niveau de la réserve de Gadebeji. Vous avez la réserve de l'Aïr Ténéré qui est aussi nationale, qui est en péril. C'est ce que, si vous voulez savoir, c'est une réserve avec les éléments qu'on connaît. L'UNESCO a ramené ça en site en péril. et nous sommes en train de mettre tous les moyens de préparer des dossiers pour la ramener en site normal.
En péril, pourquoi? Par la pression de l'homme ou...
En péril par la pression de l'homme. Vous savez qu'avec les événements de la rébellion, on a perdu beaucoup d'espèces. Les autruches, les outardes et beaucoup d'espèces sont maintenant disparues, notamment les autruches. Mmh. Et maintenant, et même les mouflons, on en trouve beaucoup, mais il y a certaines espèces qui se sont rarifiées. Mmh. Donc nous sommes en train avec l'UNESCO de ramener ça en site normal.
Bien. Nous donnons à présent la parole au préfet du département de Falmay, Hamani Kondi. Est-ce que vous pouvez nous citer l'objectif de votre déplacement ici au parc du W?
Effectivement, ce qui nous réunit aujourd'hui au niveau du parc, c'est vraiment un cadre de concertation de tous les acteurs impliqués donc dans la gestion du parc. La gestion du parc s'entendant la préservation de la zone tampon, communément appelée la réserve, et dont, vous savez, le département de Falmay est pratiquement la moitié du superficie, de notre superficie, qui fait 2072 km², et la moitié pratiquement est occupée par la zone. Et indépendamment de ça, nous avons aussi non seulement cette conservation de la zone par rapport donc à l'offensive agricole, et aussi c'est un couloir de passage d'entrée pour les braconniers et à travers donc notre conseil de sécurité départemental et du circuit de patrie, nous avons donc cette obligation, cette responsabilité donc de protéger donc la réserve. Vous savez, qui parle de parc parle donc de projection dans le futur, à long terme. Et à notre connaissance, selon les techniciens, un parc se valorise et se pérennise à travers donc sa zone tampon, qui sont les zones de réserve. Et aujourd'hui, nous savons que notre site Ramsa est pratiquement les deux tiers sont habités et occupés par les éleveurs et les agriculteurs. Et il nous faudrait nécessairement trouver les moyens pour essayer d'amener nos populations à se désintéresser donc à cette zone, parce que chacun a des sites individuels, des sites qu'ils utilisent. Nous avons des aires de pâturage au niveau de Falmay, s'il faudrait en parler. Nous avons des couloirs de passage, nous avons des couloirs de passage de transhumance internationale. Nous avons aussi des sites de nos communément appelés les champs hérités donc de nos familles qui sont là. Et nous pensons que pour la gestion, notre mot c'était d'attirer l'attention de nos partenaires ou des responsables donc de la question du parc, pour qu'ils puissent se projeter pas dans la défensive par rapport à l'occupation donc de cette réserve et du parc, mais de proposer d'autres opportunités qui permettront à ces populations de se désintéresser carrément à la recherche de d'autres d'espaces, parce que les espaces qu'ils en ont peuvent être améliorés et pour qu'ils puissent donc subvenir à leurs besoins.
Comment vous comptez arriver à ça?
Et effectivement, c'est pour cela que nous avons dit, parce que cet atelier du moins, ça a parlé d'un certain clé de répartition par rapport à tout ce que régénère donc le tourisme. Et indépendamment de ça, nous nous sommes dit que les communes ne sont pas suffisamment, en tout cas en ce qui concerne notre commune de Falmay, n'est pas suffisamment outillée en partenaire et qui puisse l'amener à travailler dans ce sens pour venir en aide donc à ces populations qui utilisent donc cette réserve là. Donc nous pensons que il doit y avoir donc un pourparler, il doit y avoir un lobby qui doit aller vers les partenaires pour essayer de vendre l'utilité de la préservation donc de la réserve et du parc pour que ces activités qui se retrouvent dans leur PDC puissent être valorisées et qu'ils puissent trouver des financements. Et certainement, cela nous permettra des choses. Et nous étions aussi arrivés pour essayer de faire comprendre par rapport au braconnage, parce que indépendamment des braconniers qui nous viennent des autres pays, certainement, ils ont des complices qui, très malheureusement, sont des complices que nous connaissons, parce que ce sont des complices, ce sont des citoyens du département, mais qui, du fait que nous sommes à la frontière avec le Bénin, et connaissant pertinemment nous connaissons leur activité par rapport donc à ce braconnage-là, se sont désinstallés de Falmay pour se retrouver de l'autre côté, de telle sorte qu'ils ont créé un couloir. Tantôt, le passage se fait du Bénin à un certain moment de contrôle ou de poste non, où il n'y a pas de contrôle. Il faut bifurquer pour se retrouver. Ils connaissent suffisamment le parc, la réserve et nos attitudes par rapport donc à cette question de sécurité. Et c'est pour cela que nous avons dit que nous sommes venus pour proposer effectivement que, au lieu d'avoir donc des adversaires qui connaissent bien le terrain et qui connaissent nos attitudes, notre façon de faire, vaut mieux les avoir de notre camp pour que nous constituions une équipe pour mieux jouer contre ce braconnage-là. Et nous avons effectivement été entendus par les responsables donc de ce parc. Et nous sommes en train d'élaborer, en tout cas, tout ce qu'il y a de mieux par rapport donc afin que nous puissions jouer pleinement le rôle utile pour notre pays et pour la préservation donc de notre parc qui nous est cher.
Monsieur le chef de division parc et réserve, on sait que ces réserves abritent différentes espèces d'arbres. Comment se portent-elles?
Bon, quand vous prenez la zone du parc W, vraiment les espèces qui sont à l'intérieur sont vraiment protégées. Leur protection diffère des autres parce que c'est le statut d'une réserve à une autre qui diffère. Quand vous prenez les autres aires protégées, il y a, comment dirais-je, la cohabitation, même entre la coexistence entre l'homme et les animaux. Il y a certaines activités que les hommes arrivent à mener à l'intérieur de ces aires protégées, contrairement au niveau du parc W. Donc, au niveau du parc W, je vous assure que la conservation ici, elle est bonne, si ce n'est pas qu'il y a les questions liées au changement climatique qui affectent certaines ressources. Sinon, c'est mieux qu'ailleurs.
Bien. Alors, comment se fait la gestion de ces réserves? Une gestion directe ou indirecte via d'autres structures? Je pose cette question au directeur de la faune, Samaïla Sahelou.
La gestion, quand vous voyez ici au parc, il y a une unité de gestion où ça marche bien. Il y a le conservateur, il y a les autres chefs de service qui mettent en œuvre les activités régaliennes. Au niveau des termes, vous avez le conservateur et les autres responsables de l'unité de gestion.
À chaque niveau, il y a un conservateur dans toutes les réserves.
Et on arrive maintenant au niveau de Gadebeji, il y a une unité de conservation. Au niveau de Kandaji, c'est une réserve récemment créée où on va justement mettre l'unité de conservation.
Et pour chaque unité de conservation, on peut avoir combien d'agents qui assurent?
À peu près 4. 4 agents. Le conservateur, le responsable de suivi écologique, le responsable de surveillance, le responsable de développement local et quelqu'un qui s'occupe aussi, c'est à peu près 4, hein, responsable de suivi écologique, protection et surveillance, développement local, et le coordinateur qui est le conservateur, de façon générale. On peut avoir 5. En dehors de ça, il y a les agents chargés de surveillance. Et Dieu merci, l'État du Niger a renforcé l'effectif dans toutes les réserves protégées. Et on a renforcé les effectifs. Ça, c'est par rapport aux autres pays. Vraiment, le Niger est en avance par rapport à la mise à disposition du personnel pour s'occuper d'eux. Maintenant, il faut vous dire que c'est les moyens qui doivent accompagner. Les moyens, c'est quoi? on dit les standards de surveillance. C'est quoi les standards de surveillance? Quand vous avez une aire protégée, il faut que les agents soient dans les conditions.
C'est quoi les standards?
Les standards, c'est qu'il faut qu'il y ait une base vie ou des bases vie et des postes de surveillance.
Et ce qui signifie?
Les bases vie, c'est des hébergements, des postes où les éléments, quand ils font 20 jours de surveillance, ils viennent s'asseoir, ils ont la télé. Ils ont la télé pour suivre ce qui se passe ailleurs. Ils ont leur chambre pour se reposer avant de reprendre. Ça, il faut qu'on les mette dans les conditions. Et on a, il faut créer des postes avancés où ils peuvent être à l'intérieur. Là où quand les autres voient les patrouilles aux environs du secteur, les autres se reposent. Quand je considère ici, c'est un parc, en termes de surveillance, le centre dit que suivant la configuration du parc, il faut créer là-bas une base là-bas, il faut créer un poste là-bas, l'urgence, pour occuper l'espace.
À gauche, à droite.
Pour équiper, suivant la configuration, pour équiper l'espace. Ce groupe, ils ont la base ici, ils ont un rayon de surveillance. Les autres ont. Donc, c'est l'occupation de l'espace. Donc, un braconnier, rapidement, il lance, on le maîtrise. Vous voyez?
Et ces standards ne sont pas forcément respectés au Niger?
Les standards, on a formé les gens. On les a appris, les standards. Mais c'est les moyens qui sont insuffisants pour mettre en œuvre ces standards.
Bien, nous allons revenir au défi. Le temps de vous poser cette question par rapport justement à cette gestion, à cette question de gestion de chaque réserve et le personnel qui est affecté. On sait que récemment, il est apparu dans les médias que l'État Niger aurait signé un accord avec une ONG internationale pour la gestion de la réserve thermite Tintuma pour une période dépassant 10 ans.
Oui, vous savez.
Qu'en est-il de cet accord? De quoi il s'agit exactement? Si vous avez l'occasion de répondre, en tout cas,
vous savez,
par rapport à cette question.
Au vu des défis, au vu des problématiques liées à la gestion des aires protégées au Niger, nous avons pensé à des orientations stratégiques, notamment les mécanismes de financement durable. Et à travers les mécanismes de financement durable, on peut penser aux fondations, on peut penser à la délégation de gestion. Et du coup, pour le cas de Thermite Tintuma, qui est quand même une réserve très vaste.
97 000 km2.
9 millions. Très vaste. Nous avons pensé, et c'est un processus, c'est pas comme ça. Un processus réfléchi. À donner en délégation de gestion. Le processus a été enclenché par les acteurs locaux. Les acteurs locaux, ils ont ce qu'on appelle une instance de décision, qui est le comité consultatif, qui est représenté par l'ensemble des acteurs au niveau de la région de Zander, de Difa et d'Agadez, qui partagent la réserve. Ils ont décidé à leur session de d'août 2017 de déléguer la gestion. Les autorités nigériennes étaient attentives à cette préoccupation et ont décidé d'aller voir ce qui s'est passé ailleurs. Justement, une mission justement conduite par le ministre de l'Environnement, accompagnée par nous-mêmes en termes de staff technique, nous sommes allés voir le parc de Zakouma, qui est un modèle de gestion que les autorités tchadiennes ont délégué à African Park. On était voir le modèle. On s'est expérimenté de leur expérience. On a vu ce qui est développé en termes de tourisme, en termes de mobilisation des ressources financières, en termes de outils de gestion. Résultats sont là. On a vu la forme se développer. On a vu des acteurs locaux impliqués. Et par la suite, le ministre a mis en place un comité qui a mené des réflexions pour élaborer l'accord. C'est cet accord qui prenait en compte tous les contours de la gestion durable, de l'efficacité de gestion recherchée, et ont élaborer un avant-projet. Le ministère a identifié effectivement un consultant avec l'appui de l'ONG, avec l'appui financier de l'ONG, pour élaborer le cadre juridique de ce partenariat. Et après, il y a eu un atelier de validation qui s'est tenu à Zander le 29 septembre avec tous les acteurs qui ont validé ce cadre de partenariat. Du coup, il faut que les gens sachent que c'est un processus. Et du coup, en Afrique, il y a eu APN gère actuellement en Afrique plus de 14 aires protégées en gestion déléguée. Et les autres, ça sont là. Je vous donne l'exemple du Bénin. C'est le président de la République du Bénin qui a dit « Africains, viens, on a des soucis pour la réserve de Pajari, venez gérer ça. » Demandez Pajari ce qui se passe aujourd'hui. Pour le cas du Niger, dans les clauses du contrat, c'est 20 ans.
20 ans de gestion.
20 ans de gestion. Le Niger, c'est la réserve du Niger. On n'a pas vendu. C'est le ministère de l'Environnement a une mainmise de suivi. Les agents s'est mis à la disposition et c'est les agents des eaux et forêts qui vont appliquer la loi nationale. On a un droit de regard sur la réglementation internationale, tout ce qui se passe. Les agents mis à la disposition, c'est des agents forestiers qui vont, qui gardent les avantages, notamment les avancements. Donc, et il y a une certaine suivi et la supervision menée par l'administration de tutelle.
La structure à laquelle ça a été délégué n'est pas la même que celle, qui de, celle du Tchad.
C'est pas la même chose. En fait, cette ONG
a
fait ses preuves parce que ça fait longtemps qu'il mène des activités au niveau de la région de Tanami-Tontoma.
C'est bien ONG Noé.
Noé. Ils ont mené la surveillance depuis un certain nombre d'années. Ils ont mené le suivi écologique et les résultats sont là, dans les archives sont régulièrement. Ils ont développé l'éducation environnementale, ils ont développé les actions sociales, ils ont développé la communication à travers les universités, ils ont créé les rapports avec, en termes des activités régionales avec les réserves du Tchad. Et pour vous dire, l'ONU qui n'a pas une expérience dans le système de délégation a signé une convention avec African Park. Donc pour vous dire, il y a un mécanisme de suivi non seulement au niveau national, et je vous dis, le conseil d'administration, composé de 7 personnes, le président, c'est un Nigérien, c'est l'État du Niger qui désigne le président du CA.
Quelle est la plus-value que ce partenariat apporte au Niger?
La valeur ajoutée, c'est renforcer l'efficacité de gestion de la réserve de Tontoma. C'est développer la surveillance aérienne. C'est développer toutes ces patrouilles avec une équipe de sécurité assez importante qui auront des moyens conséquents. Et nous sommes en train avec le ministère de l'Intérieur de la Défense pour voir même en termes des moyens renforcés d'APATA pour la surveillance. C'est quoi? C'est les bases. On va les créer, c'est prévu. Améliorer l'effectif, développer le tourisme, développer les actions sociales, tout c'est prévu. Il y a un plan d'investissement dès les premières années et je vous informe déjà qu'ils ont acquis un financement de l'Union européenne, et de l'AFD pour mettre en œuvre cette gestion déléguée.
Une dernière question pour finir, pour clore cette parenthèse. Qu'est-ce qui est proposé en contrepartie à cette structure à laquelle la gestion de Tintuma est déléguée?
La contrepartie, tu sais, dans des colloques comme ça, vous avez toujours des obligations de l'ONG qui doivent respecter ceci, qui doivent respecter les engagements pris. Et l'État a aussi des obligations. Tout est clair. L'ONG doit faire en sorte que l'effectif de toutes ces espèces soit rehaussé, l'effectif du personnel, la logistique soit améliorée et l'ONG doit à des périodes rendre compte à travers le rapportage de tout ce qu'ils sont en train de faire et les obligations de l'État, c'est mettre à la disposition de l'ONG les effectifs du personnel sollicité et suivre, faciliter les actions. Justement,
et à retour, elle recevrait 50% des recettes ou 60%.
Non. Laisse.
Bien. Le directeur, alors, Ali Abdoulaye Gaziba, vous voulez ajouter?
Maintenant, par rapport à cette question-là, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à couler beaucoup de salive, je pense bien que si on voit actuellement, présentement, la situation du Niger ne permet pas, avec son budget, de faire face à toutes les dépenses d'aménagement ou de gestion de nos aires protégées, ce n'est pas possible. Les priorités de l'État, aujourd'hui, elles sont nombreuses. Voilà une guerre à laquelle l'État fait face à tous les jours. Je vais parler de ce banditisme ou bien de
cette De l'insécurité de façon générale.
De façon générale. Le budget ne le permet pas. Maintenant, comme le budget ne permet pas, au niveau international, il y a des fonds qui existent, mais dont il est difficile maintenant, dans ces derniers temps qui courent, de les allouer aux États directement. Le Niger est déjà en retard par rapport aux autres pays. Sinon, ce processus devait intervenir au Niger depuis 2006. En 2006, nos gens n'ont pas voulu. Parce qu'effectivement, comme les gens sont en train de le vivre maintenant, ils ont cru que c'était une vente ou quelque chose qui est derrière ça. Mais après, c'est en 2006 que pour le Niger, ça devait intervenir. Ils n'ont pas fait. Ils sont allés au Tchad. Le Tchad les a reçus. Le président Déby a pris des mesures fortes et les résultats sont probants là-bas.
Et ce sont ces résultats que le Niger était parti voir et inspiré pour venir là-bas.
Exactement. Pour vous dire que dans ce truc-là, le mandat qui est donné à l'ONG, il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation minière, même de la faune, il n'y en a pas. Ce que l'ONG va faire, c'est de faire en sorte que la biodiversité revienne.
Ça, le directeur l'avait largement rappelé. Peut-être que vous pouvez nous en dire sur ce qu'elle recevra en retour.
Pour le moment, moi, je ne suis pas en connaissance, comment dirais-je, de l'accord. Mais je sais que le Niger n'aura à rien à perdre. Parce que ce que le Niger aura, je vais dire, il n'y a pas seulement que les animaux qui seront conservés. Le deuxième point fort, c'est que au niveau de la périphérie, ou bien on ne parle pas là-bas même de périphérie, puisque c'est à l'intérieur même de la réserve que se trouvent des villages. Il y a des activités qui seront menées à l'endroit de ces populations. Par exemple, le puits dans le domaine de la santé, de l'éducation et tout ce qui s'ensuit seront accompagnés. Et mieux, comme il l'avait dit, je vais revenir là-dessus, ce ne sont pas des expatriés qui vont venir faire le travail, c'est les locaux qui vont travailler.
Bien. C'est bien de faire cette précision. Okay. Pour finir, quels sont les défis auxquels vous pensez que l'État du Niger, en tout cas, doit faire face de façon urgente pour préserver toutes ces réserves dont on a parlé?
Permettez-moi quand même de rappeler certaines problématiques. Au niveau du biome sahélo-soudanais, nous avons le grand braconnage qui persiste, notamment ciblé les buffles, les éléphants. Ça, au niveau régional, pour le W, c'est un problème réel. Nous avons des braconniers professionnels, le parc, et nous sommes en train, avec les autres États, renforcer, conjuguer nos efforts pour combattre ce fléau. Nous avons l'effet de brousse anarchique qui, encore, comme vous le constatez, c'est la période où ces faits ont des conséquences sur la biodiversité, sur l'habitat de la faune. Vous avez l'orpaillage qui est un problème. Vous êtes sans savoir qu'à un certain moment, et la région du Tamou faisait l'objet de l'opérage. Et vous avez la conséquence de l'opérage. C'est des milliers de gens, 15 000 à 20 000 individus, qui font des galeries pour exploiter l'or. C'est le banditisme qui se développe. C'est la pollution diverse. C'est la pollution en termes de sonorisation. C'est les pesticides qu'ils utilisent. Et du coup, qui ont des répercussions sur la biodiversité. Vous avez les conflits divers avec la faune, avec les populations. Vous avez vraiment l'exploitation anarchique ou le trafic de la faune du côté du fleuve. Et vous avez le changement climatique, vous le connaissez, qui a des répercussions sur les ressources. Et du coup, et c'est quelques problématiques qui sont là. Maintenant, ça c'est le biome Sahel. Le biome sahélo-saharien, pour les réserves de Tanoï, Tontouma, Agadébéji et Aïr Ténéré, vous avez également le trafic, surtout vers Tanoï, Tontouma, le trafic de la faune. Ça, il faut que l'ensemble des Nigériens se réveillent pour faire face au trafic de ce genre. C'est les gazelles, que les gens trafiquent, qui font le commerce, et nous sommes en train de perdre notre biodiversité. C'est justement leur paillage, il va rappeler cela au niveau de la réserve de Guédébéji. C'est le problème de faible capacité de produire. C'est la pauvreté. C'est la population qui croît vite et ils ont besoin de certains produits. Et c'est le prévoyant d'autres, comment on appelle ça, d'autres ressources, les produits forestiers non liés, où les gens rentrent dans les aires protégées, ramassent ces produits, et des fois sont illégales. Et ce qui est important, c'est le problème d'application de nos lois et règlements. Et le défi, je l'ai dit tantôt, c'est le mécanisme de financement durable. Il faut qu'on ait quelque part un système de mécanisme de financement pour qu'on ait de l'argent, qu'on mobilise de l'argent pour gérer de manière durable nos ressources naturelles, notamment les ressources fauniques. Ailleurs, vous avez vu, et quand je prends l'exemple du Murray Park Yellowstone aux États-Unis, c'est un parc aussi vaste, mais je vous assure, ils ont une fondation Yellowstone qui mobilise beaucoup d'argent pour la gestion. C'est par exemple le Canon qui investit, il faut simplement qu'ils puissent donner des véhicules. Il suffit simplement de la publicité, leur logo.
Donc, développer le mécanisme de financement
durable. Maintenant, renforcer les infrastructures au niveau des aires protégées et améliorer pour certains aires protégées le personnel. Et maintenant, faire une communication et vraiment sur les aires protégées en termes pour les générations actuelles et futures, pour qu'ils connaissent en tout cas les richesses de nos aires et qu'ils investissent pour la conservation de nos richesses.
Ali Abdullah Gaziba, oui. Chef division parc et réserve.
Je veux seulement ajouter à ce qu'il vient de dire la prise de mesures fortes. Ça, il faut que vraiment l'État s'y mette.
Prise de mesures fortes pour faire?
Pour faire appliquer les textes. Il faut les faire appliquer dans leur priorité. Parce que des fois, ce qui démotive les agents. Tout récemment, ici, il venait de prendre, d'appréhender un braconnier avec une arme de guerre. Monsieur-là, quelques jours après, a été libéré. Donc, c'est des choses qui frustrent. D'abord, ce n'est même pas une arme de chasse, c'est une arme de guerre.
Donc les prises de mesures fortes.
Et le respect des textes dans leur application.
Le directeur, pour clôturer.
Oui, en fait, je voulais ajouter par rapport au défi. Le mécanisme de financement durable, quand au niveau régional, nous sommes en train de se lancer. Hein. Il y a une fondation ouest-africaine, nous sommes en train de s'intégrer. Et il y a des étapes que le Niger doit accomplir pour s'intégrer dans cette fondation. Et nous aurons des ressources, notamment par rapport à leur projet Parc W. Mais pour les autres, il faut qu'il y ait une fondation générale qui va mobiliser des ressources et pour subvenir aux besoins en termes d'investissement sur les aires protégées.
Et vous pensez que cette fondation peut être initiée par des nationaux?
Oui. Le départ, c'est nous. Et je pense que, en tout cas, les autorités aujourd'hui sont averties pour ces questions de financement durable. Et Dieu merci, en tout cas, on est en train de se lancer dans ce sens.
Merci. Fin du forum d'aujourd'hui sur les réserves naturelles protégées du Niger, défis et perspectives. Nous retenons que le Niger dispose de 9 aires protégées réparties dans 2 biomes, à savoir le biome sahélo-soudanais et le biome sahélo-saharien, et 2 sanctuaires, le sanctuaire des hippopotames dans la région de Tillabéri et le sanctuaire des Adax dans la région d'Agadez. Parmi les réserves du Niger, 2 sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit du parc national du W et de la réserve de l'Aïr et du Ténéré. Nous avons vu l'importance socio-économique, environnementale et touristique de toutes ces richesses nigériennes, à savoir donc ces réserves. Il ressort de nos échanges un besoin de mobilisation de tous et chacun dans la préservation de ces richesses nationales, à commencer par l'État qui doit prendre des mesures fortes et insister sur le respect des textes à suggérer le chef division parcs et réserves. Nous étions en compagnie de Samaila Sahailou, directeur de la faune, de la chasse, des parcs et réserves, Ali Abdoulaye Gaziba, qui est chef division parcs et réserves, et le préfet du département de Falmay, Hamani Kondi. Au micro, Alassane Kouzima Amadou, à la technique, Ali Soufou.